États-Unis, élections sans enjeu pour les travailleurs. Mardi 4 novembre, quelque 180 millions d'électeurs américains sont appelés à voter. Ces élections sont dites de, entre guillemets, mi-mandat, mid-term, car elles ont lieu entre les élections présidentielles de 2012 et de 2016. Elles concernent une série de postes, les 435 membres de la Chambre des représentants, 33 des 100 sénateurs, 36 des 50 gouverneurs d'État, ainsi que 46 des 50 assemblées d'État, de nombreux fonctionnaires, des juges, des maires, des conseils d'école, etc. Les électeurs sont également appelés à se prononcer sur des entre guillemets propositions, des référendums locaux sur des questions diverses. Au niveau fédéral, le principal enjeu concerne le Congrès. Les Républicains contrôlent déjà la Chambre des représentants et pourraient bien s'emparer du Sénat en raison de l'impopularité de l'administration Obama. Cela restreindra peut-être encore la capacité de légiférer du président. Encore que, quand il s'agit de préserver les intérêts de la bourgeoisie, les Républicains savent se montrer responsables, comme ils l'ont montré en septembre pour la décision concernant les bombardements sur l'Irak et la Syrie. Les enjeux pour les deux grands partis. C'est souvent au niveau des 50 États que se situent les principaux enjeux politiciens. Dans le système politique américain, ils ont des prérogatives importantes qui vont du barème des peines pour les crimes et délits au droit du travail, en passant par le maintien de l'ordre, l'organisation des élections, la fiscalité et beaucoup d'autres questions. Avec 29 des 50 gouverneurs, les Républicains contrôlent déjà une majorité d'États. En augmentant ce nombre, ils espèrent aussi s'assurer à l'avenir le contrôle de l'État fédéral par différents moyens. L'un est le découpage des circonscriptions électorales, découpage qui relève de la compétence des États. Après le recensement de 2010, ceux-ci ont procédé à de grandes révisions, de façon à assurer au parti du gouverneur en place un maximum de représentants. Ainsi, en 2012, à la Chambre des représentants, grâce à ces savants découpages, les Républicains ont obtenu moins de voix que les démocrates, mais plus de sièges. Un autre enjeu concerne la nomination des juges fédéraux, qui est soumise à l'approbation du Sénat. Ainsi, en 2000, c'est grâce au concours de la Cour suprême, majoritairement républicaine, ainsi que de son frère, gouverneur de Floride, que George W. Bush l'avait emporté contre ce rival Al Gore, qui avait pourtant 500 000 voix de plus que lui. Pour une majorité de la population, ces élections apparaissent sans enjeu réel. Cependant, derrière le théâtre politicien, la bourgeoisie américaine mène sa guerre contre la classe ouvrière. Pendant les élections, la guerre de classe continue. La reprise de l'économie, dont les économistes et l'administration expliquent qu'elle a commencé en 2009, est bien laborieuse. Les profits sont certes revenus à leur niveau le plus élevé, 10,8% du PIB fin 2013, un record historique. L'administration Obama s'est aussi vantée que le chômage diminue, avec un taux de 5,9% en septembre 2014, moins 1,3% en un an, soit 9,3 millions de chômeurs. En réalité, si on compte les temps partiels imposés et d'autres chômeurs non comptés, le taux officiel est de 12%. Surtout, des millions de personnes sont sorties du marché du travail. En 2007, les États-Unis comptaient 121 millions de personnes employées à temps plein. Aujourd'hui, leur nombre est de 119,8 millions, alors que la population est passée entre-temps de 301 à 319 millions d'habitants. Quant au salaire, il recule. Moins 5% en 5 ans dans le secteur manufacturier, surtout par l'instauration de, entre guillemets, « double grille », avec des salaires très inférieurs pour les nouveaux embauchés, à poste et à qualification égaux. Ce système, expérimenté d'abord dans l'industrie automobile, s'est généralisé. Ceux qui trouvent aujourd'hui un emploi sont moins payés qu'avant pour le même travail. Si Apple installe une nouvelle usine dans l'Arizona plutôt qu'en Chine, c'est que l'écart des salaires entre les deux pays s'est beaucoup réduit depuis quelques années. Le patronat et nombre de dirigeants syndicaux avaient d'ailleurs fixé cet objectif, être aussi, entre guillemets, compétitif que la Chine. Les grandes sociétés se portent bien. Leurs profits records ont servi à enrichir les riches, en distribuant 900 milliards de dollars en dividendes en 2013, environ 100 milliards de plus que dans les années fastes d'avant la crise. L'automobile est un cas emblématique. Les ventes de voitures et d'utilitaires ont retrouvé leur niveau d'avant la crise. Et les profits sont de retour pour les Big Three, General Motors, Ford, Chrysler. Les effectifs ne sont pas revenus au même niveau. Ils ont été réduits de 20% entre 2007 et 2013 et 27 usines d'assemblage ont été fermées. Très logiquement, les inégalités se creusent. Selon la Réserve fédérale, les 3% les plus aisés ont perçu 30,5% du total des revenus en 2013, les 7% suivants en ont empoché 16,8%, ce qui laisse la moitié des revenus aux 90% restants. Le salaire minimum fixé au niveau fédéral à 7,25 $, soit 5,72 € par heure, ne permet pas d'échapper à la pauvreté, même avec un temps plein. Les États peuvent certes adopter des salaires minimums plus élevés, mais dans les faits, ils ne le font guère, sous prétexte de ne pas faire fuir les emplois. Sous le même prétexte, plusieurs États ont adopté des législations antisyndicales dites, entre guillemets, « droit au travail », afin de réduire encore les capacités de défense des travailleurs. Tels sont les problèmes des couches populaires américaines, mais il en est bien peu question dans ces élections. Michel Bondelet.